Charlie et les kangourous. Tadam ! Découvrez une amitié extraordinaire entre une petite fille...
Je m'appelle Charlie.
...et des kangourous.
Il a faim, ce petit kangourou.
On va s'occuper de toi, mon grand.
Cet été, faites un bond au cinéma...
On vient vous aider.
...pour vivre la plus grande aventure familiale des vacances.
Quand ils seront prêts, on les ramènera ici. C'est là qu'ils sont chez eux.
Inspiré d'une incroyable histoire vraie, Charlie et les kangourous.
Les kangourous, pour nous, c'est magique.
Actuellement au cinéma.
Cet épisode de L'Heure du Monde est soutenu par Audi Business. Aujourd'hui, les critères environnementaux prennent une place croissante dans les décisions de flotte des entreprises. L'Audi Q6 e-tron répond à cet enjeu. Première et unique de son segment à obtenir le label EcoScore avec 70% d'abattement sur l'avantage en nature et 120€ d'économie mensuelle. Tous les détails sur audi.fr. Audi Business est le programme sur mesure dédié aux professionnels. Au 18 juin 2026, l'Audi Q6 e-tron Performance est le premier SUV du segment B à obtenir le label EcoScore. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Je viens de recevoir un message sur mon téléphone. C'est juste une photo, sans texte. Je clique dessus pour l'agrandir et j'en ai le souffle coupé. Le papier est un peu jauni, avec quelques déchirures. Il a été recollé au scotch, et l'encre bleue de l'écriture à la plume est toute délavée. C'est mon père qui vient de m'envoyer ce document, la page d'un registre civil espagnol. Mais pas n'importe quelle page, c'est la pièce manquante de mon enquête. Je l'appelle aussitôt.
Allô ?
Coucou, c'est ouf, je viens de voir ce que tu m'avais envoyé.
Pas mal, hein ?
Mais qui t'a envoyé ça ?
Pep. Il avait dû garder des documents de son père.
Pep, c'est un cousin de mon père. Le document qu'il lui a transmis, c'est le vieil acte de mariage de ses propres parents. Comme dans tous les registres civils, le nom des parents des mariés est aussi indiqué. Et donc là, sous mes yeux, se détache en jolies lettres manuscrites, tout en courbe et en boucle, le nom que je cherche depuis des mois. Celui de mon arrière-grand-père. José Molina López.
Ah mais c'est trop bien, bon bah du coup, c'est bon, je peux faire la demande à l'association pour retrouver les disparus là.
Bah oui, bien sûr, ouais.
Parce que j'ai tout, c'est trop bien, on avance.
Ah bah ouais, c'est bien, ouais.
Derrière ce petit air un peu détaché, en fait, j'en tremble presque. Avec son nom complet, je vais enfin pouvoir avancer. Demander correctement aux archives, aux associations de mémoire, s'il existe quelque part des informations sur mon arrière-grand-père. Je prends mon ordinateur. Je me rends sur le site de l'Association pour la récupération de la mémoire historique. Je clique sur l'onglet « Reclama un desaparecido » pour réclamer un disparu.
José Molina López avec un accent sur le O.
J'entre tous les détails que je connais. J'envoie des mails aux archives nationales, mais aussi régionales, comme celle de Catalogne, la région où se sont déroulés les derniers combats de mon arrière-grand-père. Quelques semaines plus tard,
oui, allô ?
Je reçois un coup de téléphone.
J'ai reçu votre email à
oui.
Vous parlez que votre grand-père est...
Exactement.
C'est Josep Calvet Bellera. Il travaille au Mémorial démocratique de Catalogne et il a reçu ma demande.
Notre base de données est morte. Il y a une référence à votre grand-père.
Ouais.
José Molina López, il est mort pour action de guerre à Balaguer de combat.
Mon arrière-grand-père, José Molina López, soldat de la 72e division de l'armée républicaine, est mort à Balaguer, dans la province de Lérida, le 24 mai 1938. Donc c'est bien l'année que mon père m'avait dite, mais il ne connaissait pas la date exacte. Et Balaguer, Lérida, moi je ne sais pas vraiment où c'est.
Et en fait, c'est plus à l'est que ce que je pensais. Mon père m'avait dit qu'il était mort pendant la bataille de l'Èbre. Et donc en effet, c'est à côté de l'Èbre.
L'Èbre, c'est un fleuve qui traverse toute la Catalogne avant de se jeter dans la Méditerranée. Et ce que les historiens appellent « Bataille de l'Èbre », c'est l'une des plus importantes de la guerre d'Espagne. La dernière grande offensive des Républicains qui se brisa face à l'armée franquiste et qui signa le début de leur défaite. Mon arrière-grand-père a donc vécu cette bataille, probablement sans savoir qu'elle était décisive. Je me demande ce qu'il a ressenti. Est-ce qu'il a souffert ? Est-ce qu'il a eu peur ? Et à quoi ressemblait le genre de combat où il a perdu la vie ?
La personne sacrée de l'Espagne est en danger. Le mot de passe arrive à l'Espagne.
J'ai enquêté sur la mort de mon arrière-grand-père républicain espagnol et la mémoire des victimes de la dictature franquiste. Je m'appelle Garance Munoz et vous écoutez Espagne, l'écho du silence, une série historique et intime réalisée par Amandine Robillard. Deuxième épisode, la République vaincue.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Ay Carmela, c'est une chanson que mes parents mettaient tout le temps en voiture et qu'on aimait beaucoup avec ma sœur. Je me souviens petite de chanter avec elle à l'arrière. Boum balaboum balaboum bam bam. À l'époque, je ne le savais pas. Mais c'est l'une des chansons les plus célèbres des soldats républicains. Ce qui pour moi était une chanson rigolote, enfantine, est en fait un chant de bataille qui parle de lutte contre les fascistes. Maintenant, en l'écoutant, j'imagine mon arrière-grand-père la chanter avec ses camarades sur le front. Quand le coup d'État survient, les 17 et 18 juillet 1936, l'Espagne se divise en deux camps. Ceux qui résistent, c'est-à-dire une partie des classes populaires, des intellectuels de gauche ou, comme mon arrière-grand-père, des membres des syndicats ouvriers. Et ceux qui soutiennent les putschistes, donc une bonne partie de l'armée, du patronat et de l'Église. Et à leur tête, une figure émerge rapidement, Francisco Franco. Franco, c'est l'un des généraux les plus prestigieux de l'armée espagnole. C'est lui qui appelle l'armée à se soulever. Et donc on appelle ses partisans les franquistes. L'autre camp, ceux qui défendent la République, on les appelle les républicains. Comme mon arrière-grand-père, qui lui a plutôt dû répondre à ce genre d'appel.
Tous les membres du parti doivent se rendre immédiatement sur place. Tous ceux qui appartiennent au syndicat viendront avec des armes.
Mon arrière-grand-père était père de famille. Il était mécanicien dans les mines d'Alquifé, en Andalousie. La question que je me pose, c'est pourquoi un ouvrier andalou, syndiqué mais pas forcément ultra-politisé, prend les armes pour défendre cette république ? L'historien François Godichaud me répond qu'avant même la guerre, le mouvement ouvrier espagnol était déjà mobilisé. L'économie reposait sur un partage des terres très inégalitaire, la lutte des classes était exacerbée et violente.
Il y avait une mobilisation qui était une mobilisation de survie, tout simplement pour gagner des revendications matérielles, essayer de pas mourir de faim, essayer de résister aux contre-offensives du patronat, des grands propriétaires qui se faisaient souvent la matraque ou les armes à la main. Et donc, dans la mobilisation contre ce coup d'État fasciste, eh bien, on continue, c'est-à-dire que l'adversaire de la veille est devenu l'ennemi du présent, puisqu'il a saisi des armes. Et donc, il n'y a pas besoin d'appel aux armes de la part des directions pour que cette mobilisation ait lieu. À un moment donné, c'est eux ou nous. C'est-à-dire que quand les putschistes entrent dans les villages ou dans les villes, notamment en Andalousie et en Extrémadure, ils fusillent tout le monde. Ils tuent tous les gens qui sont militants politiques ou militants syndicaux. Le fait même d'avoir une carte peut vous valoir la mort. Si bien qu'il n'y a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que vous êtes militant ou vous êtes adhérent et vous vous retrouvez avec une arme à la main parce que tout simplement, il y en a qui veulent votre peau en face.
Ce camp républicain est composé de militants politiques issus de partis et de syndicats différents. Ils se rassemblent contre un ennemi commun, mais ils sont loin d'être d'accord sur tout.
Il y a une myriade de parties et de sigles, au point qu'entre historiens de la guerre civile, on fait très attention à ne pas tomber dans ce qu'on appelle la soupe aux lettres, pour ne pas perdre son lectorat, mais c'est quelquefois un petit peu difficile. On a essentiellement deux grandes centrales syndicales, la CNT, Confédération Nationale du Travail, qui est d'orientation anarcho-syndicaliste, et puis l'UGT, Union Générale des Travailleurs, qui est le bras syndical du Parti Socialiste.
Ah, ça je connais. C'est le syndicat où était mon arrière-grand-père. C'était donc un socialiste.
Le Parti Socialiste est le principal parti du monde ouvrier, mais il y a aussi un jeune parti communiste, très longtemps très minoritaire, mais qui depuis 1935 connaît une croissance très importante et va devenir une espèce de colonne vertébrale importante de la résistance, dans la mesure où le prestige de l'URSS à l'époque est très important. L'URSS est le seul pays qui aide la République face aux différents fascismes, si bien qu'il devient le premier parti politique du camp républicain pendant la guerre.
On reviendra plus tard aux alliances internationales. D'abord, j'ai envie qu'on s'intéresse à ce qu'il se passe dans ce camp républicain. Parce que c'est fou quand même. Soudainement, dans un pays fracturé par un coup d'État militaire, des centaines de milliers de gens de gauche se retrouvent avec des armes. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien la révolution.
Cette réaction populaire au coup d'État donne lieu véritablement à une révolution sociale ? Au sens où ceux qui, localement, ont les armes et qui sont les militants ouvriers et qui trouvent face à eux les propriétaires et leurs agents, militants d'extrême droite ou de droite, le juge local, etc., etc., leurs adversaires de toujours, eh bien, ils font la révolution. C'est-à-dire, quand ils reviennent dans les usines et qu'ils ne trouvent pas le patron parce que soit il se cache, soit il a fui, eh bien, ils mettent l'usine en route de façon collective, ils collectivisent l'industrie. Et puis, il y a des processus de collectivisation des terres aussi, parce que les journaliers qui ont besoin de cultiver ces terres, les cultivent sans plus rien demander à personne. C'est-à-dire que, pour la première fois, puisque l'État s'est autodissous du fait du coup d'État, eh bien, à partir de là, la possibilité de prendre en main la vie en général, et donc, y compris les moyens de production, elle se réalise.
Et ça, cette révolution sociale, donne envie à tout un tas de personnes de gauche du monde entier de venir aider les Espagnols à combattre le fascisme.
Quand les avions disparaissent dans la direction de Madrid, après un long moment d'attente, nous nous décidons à regagner nos places habituelles. El Mano ramène sa petite troupe au marécage stratégique, où ils sont obligés de rester allongés dans la boue pour échapper à une mitrailleuse qui les a repérés depuis le premier jour. « Tous des crapauds, » dit la Chata, une des miliciennes d'El Mano. « Si vous croyez que c'est commode de porter son fusil attaché sur le dos toute la journée ?» Et s'adressant à moi, à voix basse, très vite, elle ajoute « Nous te remercions tous d'être venus te battre pour notre révolution. » Comme elle s'éloigne de son pas dansant, je pense que c'est moi qui aurais dû la remercier, elle et les autres ouvriers espagnols, pour m'avoir donné cette révolution. »
Mika Echeber, la militante communiste franco-argentine qui a écrit ces lignes, mais aussi des personnalités comme André Malraux, George Orwell, de nombreux étrangers s'engagent aux côtés des Espagnols. Venus de plus de 50 pays du monde, ils intègrent différentes milices en fonction de leur ligne politique. Et le groupe le plus célèbre qui les rassemble, c'est celui des Brigades internationales.
Les alliés les plus efficaces de la République, ce sont ceux-ci. Avocats, tourneurs, étudiants, manœuvres. Ce sont les brigades internationales. Ils ne cherchent pas la gloire. Ils sont accourus du monde entier. Ils vont mourir à Madrid.
Alors les brigades internationales, c'est effectivement un phénomène extraordinaire de volontariat pour aller combattre pour un idéal politique. La plupart des brigadistes, presque tous, sont des militants syndicaux, politiques. Le plus gros contingent est un contingent français. Ils sont décisifs dans la bataille de Madrid à l'automne 1936. Ensuite, ils sont intégrés dans les différentes unités mixtes de l'armée républicaine. leur expérience du feu, pour beaucoup qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale, est très importante. Maintenant, ils sont une trentaine de mille.
Environ 30 000, c'est-à-dire une toute petite partie de l'armée républicaine qui compte 1,7 million de personnes, contre 1,3 million dans le camp franquiste. Les républicains étaient donc plus nombreux, mais leurs forces étaient disparates, alors que les franquistes s'appuyaient sur des militaires professionnels, une armée de métier, et ils avaient une force aérienne et une artillerie supérieures, grâce à leurs puissants alliés italiens et allemands.
Le rapport de force penche en la faveur des franquistes dès le départ, grâce à l'investissement de Hitler et de Mussolini qui permettent justement à ces troupes légionnaires de débarquer en Espagne et à l'abstention de la France et de l'Angleterre qui décident de ne pas aider la République espagnole. Pourtant, en France, il y avait un gouvernement de Front populaire. Le premier réflexe de Blum, le président du Conseil français, c'est d'aider l'Espagne. Mais tout de suite après, il revient sur sa décision du fait des difficultés politiques que ça lui crée, évidemment, dans le cadre d'un Front populaire où il y a le Parti républicain qui n'est pas du tout d'accord. D'autant plus que les nouvelles arrivent d'Espagne et qui parlent de révolution sociale, avec des photos qui sont tout de suite mises en avant par la presse de droite et d'extrême droite, de cercueils, de moniales qui sont sortis de devant les églises, d'églises qui brûlent, etc., etc. Donc la France et l'Angleterre s'abstiennent. L'Angleterre, d'une manière beaucoup plus ferme, l'Angleterre avait pratiqué et pratique à ce moment-là vis-à-vis de la République une non-assistance hostile, d'une certaine manière. Donc on n'est pas exactement dans la configuration de la Seconde Guerre mondiale, où on a les démocraties alliées au bloc soviétique contre les fascismes. Dans la guerre d'Espagne, on a la République espagnole aidée par l'URSS contre les fascismes, effectivement. L'axe Rome-Berlin est signé sur la base d'une fraternité d'armes qui se réalise en Espagne, pendant la guerre d'Espagne, et avec l'abstention des démocraties libérales.
Hitler et Mussolini aident donc largement Franco. L'exemple le plus tristement célèbre, c'est Guernica. Le 26 avril 1937, les aviations italiennes et allemandes bombardent la petite ville basque de Guernica sur ordre de Franco.
Les chasseurs allemands poursuivent ceux qui cherchent à se mettre à l'abri. Hommes, femmes, enfants, animaux.
La ville est rasée. Un quart de la population y trouve la mort. Et pour l'armée nazie, c'est un entraînement pour ses combats à venir.
Guernica apparaît comme la condensation en un seul épisode des horreurs de la guerre civile espagnole. Par extension, c'est la première démonstration des horreurs de la guerre moderne.
Et c'est en 1938 que la différence de pouvoir militaire, de puissance de feu, devient véritablement décisive. C'est à ce moment-là que l'accumulation de toute cette puissance par Franco finit par l'emporter et qu'il il gagne les principales batailles qui le mettent sur le chemin de la victoire.
Jarama, Guadalajara, Teruel, Lebre sont des noms qui resteront associés à des batailles sanglantes.
Voilà, c'est à ce moment-là qu'a lieu la fameuse bataille où est mort mon arrière-grand-père. La bataille de Lebre dont je vous parlais au début de l'épisode. Les troupes franquistes déferlent depuis l'Aragon à partir de mars 1938. Et mon arrière-grand-père est là, terré dans une tranchée. Il fallait que je voie ça de mes yeux, cette région où il a passé ses derniers instants. Donc j'ai pris le train, puis un deuxième train, puis loué une voiture et je suis arrivée aux alentours de Balaguer, à l'ouest de la Catalogne.
Ouais, là, à droite.
Sur la place d'un petit village, j'ai retrouvé Paul Galito.
Bonjour. Comment ça va ?
Enchanté.
C'est un plaisir, enchanté.
Il doit avoir la cinquantaine, une veste en cuir remontée jusqu'au menton pour affronter le vent qui souffle très fort, et sous sa casquette, ses yeux brillent d'un air malicieux. Paul est un historien ultra spécialiste de la guerre d'Espagne de cette région. Il connaît chaque recoin, chaque position de l'un ou l'autre camp. Il a un minivan tout poussiéreux qu'il conduit sur les chemins cabossés qui serpentent entre les champs. Et on part faire un tour.
Ça, c'était la première ligne des soldats républicains. Et ça, c'était celle des franquistes.
Il a une main sur le volant, de l'autre, il me désigne des points précis à travers le pare-brise. Moi, je ne vois que des terres agricoles. Lui me montre des positions militaires.
Maintenant, nous passons sur le No Man's Land. Là, c'était les républicains, là-bas, les franquistes. Et ici, au milieu, le No Man's Land.
Nous sommes sur une plaine, recouverte d'oliviers et d'amandiers en fleurs. Dans ce coin coule une rivière, c'est le Segre, un affluent de l'Èbre. À l'horizon, les montagnes des Pyrénées se découpent dans le ciel bleu. C'est difficile pour moi d'imaginer la guerre dans ce cadre idyllique. Alors je lui demande à quoi ont ressemblé les combats ici.
Ici, les républicains étaient en train de battre en retraite sous la pression des franquistes et ils n'arrivaient pas à résister. Ils passent le fleuve Segre, ils prennent ce pont et ils sont complètement désorganisés. Et en avril 1938, les troupes franquistes commencent à passer. Jusqu'à cette zone là-bas, il n'y a pas de résistance de la part de l'armée républicaine. Comme souvent depuis le début de la guerre, tout le monde y allait de son avis. Il y avait des unités anarchistes, il y avait des unités communistes, il y avait d'autres unités qui s'étaient mélangées. C'était un pot-pourri. Et ils se préoccupaient plus des syndicats et des partis que de gagner la guerre.
Et comme il a l'air de connaître ces batailles dans le détail, je demande à Paul de me décrire le mois de mai, ce mois où mon arrière-grand-père est tombé au combat.
Le mois de mai, il y a eu beaucoup de pluie, et tous les chemins, ceux qui avaient construit les militaires, sont devenus impraticables. On ne pouvait pas transiter avec les camions pour transporter les blessés à l'hôpital qui était dans les villages qui sont là-bas. Ce fut un désastre.
À plusieurs endroits, les autorités régionales ont installé des petites pancartes pour rappeler ce qu'il s'est passé. Et même parfois, au détour de la route, quelques tranchées ont été reconstituées. Elles sont étroites, formées de pierres et de sacs de ciment avec des planches en bois pour maintenir les côtés. Et ce qui me frappe, c'est que les positions des deux camps sont très proches les unes des autres. Seulement une dizaine de mètres, parfois.
Ici, il y a des parapets républicains et ici, des tranchées franquistes. Ils se parlaient d'une tranchée à l'autre. Et le pire, c'est qu'il y avait ici un soldat et en face son propre frère, de la même famille.
Je n'en reviens pas. C'est fou d'être ici. Aucun récit, aucun film n'aurait pu me faire ressentir ce que je ressens là. J'ai l'impression que Paul m'observe du coin de l'œil. Il lève la main et me désigne un endroit.
Là, il y avait une fosse, là.
Et comment ça baisse,
Una?
Parce que l'homme qui vit dans cette maison là-bas me l'a dit. Il est allé là-haut, il a voulu creuser un canal d'irrigation, et quand ils l'ont ouvert, des corps morts sont sortis.
Puis il se tourne de l'autre côté et me désigne un autre endroit.
Ici, là où se termine le champ, sur cette pointe, il y avait une autre fosse.
Je réalise que je suis en train de rouler sur un gruyère de fosses communes. Et que sous la terre, parmi ces centaines de corps, il y a celui de mon arrière-grand-père. Je sais désormais que son corps est par ici, juste à côté de moi. Mais je ne veux pas m'arrêter là, si proche du but. Je veux trouver la fosse commune où il repose. Et donc, il faut que je continue mes recherches. Car des fosses communes, en temps de guerre, quand il faut enterrer dans l'urgence, c'est finalement assez banal. Dans la plupart des cas, comme en France à la fin des guerres mondiales, les fosses sont ouvertes et les corps identifiés sont restitués aux familles. Mais là, ce n'est pas le cas. Pourquoi personne n'a jamais tenté de retrouver le corps de mon arrière-grand-père ? Ni les centaines de corps qui doivent être à ses côtés, restés dans l'oubli et le silence. Lui, comme les autres soldats ensevelis, n'auront pas vu la fin de la guerre et la défaite du camp républicain. À partir de 1938, tout s'accélère. Le territoire républicain est scindé en deux, c'est la débâcle. Franco remporte bataille après bataille. En mars 1939, il lance l'assaut final et gagne la guerre.
Le 31 mars 1939, les troupes de Franco entraient dans la capitale.
Aujourd'hui, l'armée rouge est captive et désarmée. Les troupes nationales ont atteint leurs derniers objectifs militaires. La guerre est terminée.
La guerre militaire est terminée, mais pas la guerre contre l'opposition. C'est le temps des purges contre les rouges, comme Franco les appelle. Celles et ceux qui ont survécu au combat n'ont désormais qu'un seul choix, s'enfuir du pays ou subir la répression. Mon arrière-grand-mère, désormais veuve avec 4 enfants, reste en Espagne. Et la dictature franquiste s'installe. Prochain épisode, l'exil sans retour.
Je détiens la force toute puissante !
Les maîtres de l'univers débarquent sur Prime Video.
Skeletor a enlevé ma famille et il a détruit notre monde.
Un été tout en muscles.
Je me battrai pour elle.
Découvrez la montée en puissance de Musclor.
Je vais te montrer ce qu'un homme fait de sa toute puissance.
Je pense qu'on a assez discuté.
Les maîtres de l'univers. Un film en exclusivité, regardez maintenant seulement sur Prime Video.
Dépasser les limites pour réaliser l'impossible. Voici ce à quoi les ingénieurs Audi travaillent chaque jour. L'Audi Q6 Citroën 100% électrique est le premier SUV de sa catégorie labellisé EcoScore. Une prouesse technique qui offre aux professionnels de nombreux avantages fiscaux et toujours plus de valeur pour leur entreprise. Détails sur Audi.fr. Pensez à covoiturer.
Excusez-moi, bonjour, c'est le Crédit Agricole. Désolé de vous déranger en pleine écoute, mais vous allez voir, ça vaut le coup. Ça vous dirait d'empocher jusqu'à 140 euros. Faut juste devenir client du Crédit Agricole. Vous ouvrez une formule éco, ça prend même pas 10 minutes. Vous touchez jusqu'à 140 euros et surtout, vous en dépensez zéro. Même à l'étranger, il n'y a pas de frais. Alors, j'ai bien fait de m'incruster dans votre playlist, non ? Bah oui, bah voilà. Bah ça me fait plaisir de faire plaisir, qu'est-ce que vous voulez ? Éco, la carte gratuite qui vous met bien. Offre jusqu'au 27 juillet 2026, conditions sur crédit-agricole.fr.